Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 625 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, 31 place de la Madeleine, avec un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable. On parlera de la revue de presse du vin sur le web, l'appellation vin de paille, la trilogie tradition, typicité et terroir. Patrick Legris sera aussi avec nous pour une balade à l'île Maurice, le château Bastor-la-Montagne à Sauternes, et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie de Fanny Neyman, David Cobold et Philippe Fabraquet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Fanny?
Oui, ça va.
C'est sympa que vous soyez avec nous, là.
Merci, ça me fait plaisir.
Les fêtes préparent bien, là?
Ça va.
On commence à y penser pour le réveillon?
Eh bien, justement, on va en parler.
Bon, c'est très bien. Philippe, 1964, c'est une année qui vous sied?
C'est une année qui me sied pas mal, oui. Ça dépend des endroits, mais globalement, on peut trouver encore de très jolies choses. En Champagne, par exemple, c'est vraiment un millésime de référence. En Bourgogne, ça s'est plutôt bien passé. On a eu un peu de pluie fin septembre et ensuite un très beau temps. Et du coup, on a encore des vins qui tiennent vraiment bien. Dans le Bordelais, ça dépend un petit peu au moment où ça a été vendangé, hein. Je l'ai déjà dit sur ce millésime-là, mais il y a eu une grosse, grosse pluie, un déluge quasiment le 8 octobre.
Ah, le 8
cette
octobre.
Année-là, oui, c'est précis, mais oui. Ceux qui sont passés avant la tombée de cet orage ont réussi à faire un joli millésime. Ceux qui ont attendu n'ont pas eu de chance cette fois-ci.
C'est loupé.
Parce que ça a été vraiment compliqué de rentrer même dans la vigne pendant un moment et de pouvoir constater que malheureusement, ça pourrissait avant qu'on puisse
le
ramasser.
On a vendangé en bateau dans le Médoc.
Quasiment, ouais, en barque. Et ils sont partis d'ailleurs directement après par l'estuaire.
Par l'estuaire, oui.
Et ils sont arrivés jusqu'à Londres. On leur a demandé
un erreur. On s'est ramassé.
Oui, selon la grande tradition. Alors il y a quelques grandes réussites. Par exemple, la Tour 64, c'est une petite merveille. Sur la rive droite, les Merlots étant mûrs plus tôt, eh bien ça a du coup été beaucoup plus favorable. J'ai goûté encore récemment Cheval Blanc 64, par exemple.
Et alors?
C'est très bon.
Bah ça tient bien.
Ça va pour Philippe. Il faut nous inviter
de temps en temps comme ça.
On peut se libérer quand on prend 64 en cheval blanc.
C'est vrai. En tout cas, c'est un millésime intéressant et la plupart du temps, on prend pas beaucoup de risques et surtout encore beaucoup de plaisir.
Bon, ça c'est sympa. Quelques personnalités nées en 1964.
Oui, si vous croisez pour Noël Juliette Binoche, Zazie, Agnès Jaoui ou encore Béatrice Dalle, vous pouvez les interpeller.
C'est plutôt sympa.
Vous aimez le 64?
Ouais, discrètement, voilà. Là.
Et puis si vous arrivez
à
pédaler rapidement et à rattraper une Durène, par exemple. À discuter d'une façon tout à fait amicale avec Albert Dupontel ou aller voir Nicolas Cage. Vous pouvez aussi lui parler.
Vous avez Pascal Berger aussi dans vos people qui sont nés en 1964.
Exactement.
C'est notre premier invité. Mm-hmm. Pascal, le directeur général du groupe Aïf. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous avez déjà goûté dans votre vie une fois 64 en vin ou jamais?
Ah, je crois pas, non. Mais en plus, moi, je suis arrivé après le 8 octobre, donc c'est pas bon. Je suis arrivé le 15 octobre.
Ah, ça veut rien dire. Vous n'étiez pas là encore. Pascal, vous êtes énarque et vous avez passé pas mal de temps à Bercy. Vous avez côtoyé combien de ministres différents?
Oh, pas tant que ça, mais ministre des Finances, DSK, hein, tout le monde s'en souvient. Il a laissé un souvenir, il a marqué Bercy, hein, DSK. Non, pas que un souvenir
pas,
comme
pas
ça.
Pas que les hôtels.
Mais non, pas que dans les hôtels, exactement. Non, vraiment de compétences, hein, c'est clair. Francis Maire également, et puis plus spécifiquement au budget, moi j'étais à la direction du budget. Des gens comme Christian Sauter, comme Florence Parly, qui venait de la direction du budget précisément, comme Alain Lambert.
Et quel était le plus sympa et quel était le plus drôle?
Pas facile comme question. Je vais faire des jaloux.
Question piège.
DSK a énormément d'esprit, évidemment.
Oui.
Et puis quand même un petit pincement pour Florence Parly. D'abord, c'est la seule femme de l'ensemble. En plus, elle venait de la maison où je bossais, donc il y avait une vraie connivence.
Un petit coup de cœur, quoi. Alors, vous avez rejoint donc Maïf en fin 2000. Alors, pourquoi l'assurance, Pascal? C'est un peu le hasard ou vous en rêviez déjà tout petit?
Non, complètement le hasard. Soyons clairs. À la fois l'assurance et la Maïf, complètement le hasard. Un peu l'envie quand même d'aller voir ce qui se passe dans le privé. Hein, quand on est dans la fonction publique, c'est quelque chose qui titille régulièrement.
On appelle ça souvent, toujours, pantoufler.
On appelle ça pantoufler.
C'était le terme, mais c'est un terme consacré pour les énergies.
C'est le terme consacré. En fait, ça vient de la pantoufle. La pantoufle, c'est la somme qu'on doit rembourser à l'État si on n'a pas fait 10 ans de service.
10 ans minimum.
D'accord. Exactement.
Un mot sur l'historique, l'histoire du groupe Maïf. Tout débute, Pascal, en 1934.
Exactement. Une start-up de 80 ans, quoi. Tout débute en 1934. Des enseignants se regroupent et décident de mettre mettent en commun leur risque automobile, en l'occurrence. Et puis voilà, de fil en aiguille, d'abord dans le monde de l'enseignement pendant très longtemps, et puis au-delà du monde de l'enseignement. Et aujourd'hui, tous les publics peuvent s'assurer à la MAIF.
Et les chiffres d'affaires, donc c'est plus de 3,5 milliards, c'est ça, d'euros total?
Oui, c'est ça, un peu plus de 3 milliards et demi.
Et l'offre est très large.
L'offre est relativement large, à la fois assurance dommage, assurance vie, bien sûr, épargne. On se lance aujourd'hui dans ce qu'on commence à appeler la néobanque, avec les agrégateurs bancaires notamment. On élargit progressivement vers une vraie plateforme de services, en fait.
Et la rupture digitale, elle vous concerne également?
Ah oui, la rupture digitale nous concerne beaucoup. Elle concerne énormément le secteur de l'assurance. D'abord, comme tous les secteurs du tertiaire, ça va quand même être un peu violent, hein, je crois. Et particulièrement l'assurance, parce que l'assurance, ça arrive en aval de toutes les activités économiques et humaines. Donc tout ce qui se passe en amont, par exemple les évolutions technologiques, prenons juste un exemple en 30 secondes. Demain, le développement, puis la généralisation du véhicule autonome, ça a évidemment des impacts considérables sur le secteur de l'assurance. On estime que c'est 80% de sinistres en moins. C'est super, c'est bien. C'est juste le cœur de notre activité, quand même.
La MAIF, donc, est une société vraiment à découvrir. Il y a beaucoup de bonnes surprises. Notamment, vous avez un fonds. Vous investissez dans des startups dotées de combien? 200 millions d'euros, c'est ça?
Un petit peu moins de 200 millions d'euros, mais on va le doter de nouveau. Donc on sera largement.
C'est génial. Personne ne sait. En tout cas, le grand public, c'est dommage. C'est vraiment ça date de quand, cette idée?
On a monté le fonds en juillet 2015. Il est opérationnel depuis juillet 2015. L'idée est antérieure et on a commencé à investir dans des startups antérieurement. Startups du digital, hein, clairement. Notamment de l'économie collaborative, mais pas que. Et effectivement, on est très très dynamique dans ce secteur.
Et pour l'instant, le bilan des investissements, il y en a des prometteurs, d'autres qui sont moyens, c'est à voir quoi.
Je touche du bois. Pour l'instant, ça se passe bien. Pas d'accident encore, donc c'est déjà pas mal. Des choses vraiment très prometteuses et des réalisations déjà sympas, avec de belles croissances.
Votre métier dans 10 ans, c'est quoi, Pascal?
Notre métier dans 10 ans, c'est beaucoup plus qu'assureur. C'est vraiment accompagner nos sociétaires sur tout un tas de services. C'est être, j'allais dire, alors ça fait un peu, il y en a beaucoup qui revendiquent ça, mais je pense que nous, on a des raisons de le faire d'une certaine. C'est être un peu le partenaire confiance ou de tranquillité d'esprit de nos sociétaires. Ça veut dire à la fois les couvrir, bien sûr, garantir tout ce qui peut leur arriver, mais c'est aller bien au-delà. L'assurance automobile, demain, ça n'est pas seulement de la couverture, c'est véritablement proposer des solutions de mobilité pour tout le monde, etc. On peut multiplier les exemples.
David Kobol, en tant que consommateur, vous comprenez toute cette évolution que décrit très bien Pascal?
Oui.
Merci pour le commentaire. C'était bien ça, vivement Noël. Hein, c'est...
Alors, c'était clair.
Vous avez également investi dans le vin en achetant un château très sympa d'Ozac. Alors pourquoi le vin, Pascal, et pourquoi Bordeaux?
Alors, pourquoi le vin? C'est un investissement qui est déjà ancien. Hein. On a acheté Château d'Ozac dans les années 80. À la fois diversification des actifs. Vous savez que une des activités d'un assureur, c'est quand même la gestion d'actifs. Donc, il faut aussi diversifier.
C'est un peu dur en ce moment de trouver des bons plans.
Ah si vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Avec les taux d'intérêt aussi bas, c'est effectivement un peu compliqué. Pourquoi le vin? Il y avait clairement dans les années 80, j'étais pas là par hypothèse, hein, je devais être au collège à l'époque, mais il y avait clairement des petites incitations gouvernementales quand même, hein, sur incitant les investisseurs institutionnels français à aider finalement à la sauvegarde du patrimoine viticole en France.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est bien. Et donc effectivement, Maïf a investi dans un beau château, un très beau château de Margaux, et dont la qualité ces dernières années augmente vraiment de manière significative.
Vous avez aussi beaucoup investi dans l'ensemble, on va dire.
On a énormément investi dans l'ensemble, à la fois d'ailleurs dans le château lui-même, dans l'ensemble de la propriété, et puis dans la vinification. Et aujourd'hui, je crois qu'on sort un beau produit d'Ozac. Ce sont 45 hectares de Margaux, ce qui n'est pas mal pour...
Oui, c'est
pour,
important. Pour Philippe Forbach, un commentaire sur ce cinquième truc classé?
C'est un château qui était un peu une sorte de belle endormie, ouais. Qui est revenu maintenant au premier plan en termes de qualité. C'est vrai que Margaux est une appellation à la fois intéressante, fascinante et complexe. Il y a plein de terroirs différents et d'esprits différents.
Ah, c'est beau, Margaux.
Et c'est très beau. Et d'Ozac ces dernières années n'est pas devenu qu'un vin un petit peu de concours, enfin, etc., dans lequel la concentration fait qu'on le remarque. Il a gardé son ADN, son style, mais il s'est considérablement raffiné et beaucoup plus précis en termes de vinification, et ça se sent en dégustation.
David Cobold, renouveau, on va dire.
Je partage, j'ai pu assister à une verticale de Château d'Auzac que j'ai présenté avec le directeur récemment, à un club œnophile, et on constatait vraiment la progression, comme Philippe le dit, dans la précision des saveurs, dans la netteté du vin, dans la maturité des raisins également, qui n'était pas toujours le cas avant. Donc je trouve que c'est vraiment une propriété très bien gérée.
Oui, moi j'ai goûté un Dozac 2009, c'était beaucoup trop jeune et c'était super bon.
C'était bien quoi.
Ouais,
et si
bien.
Demain, Pascal, il y a d'autres opportunités dans le vin, vous souhaitez les saisir, ou au contraire vous dites on a un beau domaine, 145 hectares, c'est pas mal, Margaux c'est très bien, on s'arrête là pour passer à autre chose?
Pour l'instant c'est plutôt l'état d'esprit, ouais.
Ouais. Et dans votre cas, vous personnel, vous avez combien de bouteilles?
Ou combien j'ai de bouteilles, je ne les ai pas comptées. Je dirais à vue d'œil peut-être 500, quelque chose comme ça.
500 bouteilles, c'est pas mal ça. Et alors, vous êtes plutôt cognac, armagnac ou tisane?
Ah, pas tisane en tout cas. Non, cognac, clairement.
Et vous appréciez les vins internationaux, vous avez quand même pas mal voyagé. Vous avez déjà goûté des belles bouteilles hors de nos bons vins français?
Oh, j'aime bien les vins sud-américains, chiliens ou argentins.
Découvrir. La France est bien, quoi. Ouais. L'Argentine du vin, David Cobold, parce que Pascal allait se balader dans ce beau pays. Il y a un cépage roi là-bas pour le rouge, en tout cas.
Le Malbec, qu'on trouve à Cahors, qu'on trouvait autrefois à Bordeaux, puisque jusqu'au milieu des années 1900, le Malbec était le cépage dominant à Château-les-Tours. J'ai lu ça dans les archives de Château-les-Tours, c'est assez intéressant. Ça a quasiment disparu du Bordelais encore. Il y a un peu sur la rive droite, à Côte-de-Bourg, mais quelques pourcents dans quelques vins.
Oui, c'est marché
d'affaires. Mais c'est le cépage roi de Mendoza, en particulier en Argentine.
Merci beaucoup, Pascal, et bon vent pour ce groupe. Maïf, bonne fête. Hein, le réveillon, vous le passez où? Vous êtes à Paris pour le 24?
Ah non, je pars au soleil en famille.
Ah, vous allez où, dites-nous?
À Oman, Sultanat d'Oman.
Ah, vous allez vous régaler. Et Vino BFM, on trouve maintenant Ophélie Neyman, Miss Glouglou, pour nous parler du vin, mais version toile nette.
Eh ben oui, parce que on est à quelques jours de Noël, on prépare les fêtes, mais on les prépare aussi sur Facebook. Alors évidemment, les accords mets vins font toujours partie des débats où chacun tient à donner son avis, et les réseaux sociaux sont un merveilleux royaume pour ça. On voit fleurir un peu partout des petites propositions, mais il y en a une qui m'a amusée, c'est la petite provocation de Franck Cucuc. Il se définit comme un animateur de vin et il a écrit en ce beau mois de décembre « Avec vos huîtres, vous prendrez bien un rouge ?» Alors s'en suivent une cinquantaine de commentaires, assez amusés mais sérieux aussi. Ça part avec Francis Boulard, des Champagnes Boulard, qui affirme, avec beaucoup d'humour et de second degré, que des huîtres de Méditerranée, la mer où il n'y a pas de marée, finalement, c'est l'accord parfait avec du rouge. Et puis, ça devient plus franc. Il y a Dominique Hutin, qui est un journaliste qu'on a longtemps entendu sur une radio concurrente, qui lance un Beaujolais nouveau, gentiment rafraîchi. Et puis les internautes de proposer tour à tour un rouge de Savoie, un Trousseau, un Pinot Noir de Vendée, un rouge de la Clap.
Ils ont rien à faire tous ces gens.
Un entre-deux-mer, ça relance derrière, accrochez-vous avec un Persan, une Belle Jacquère, une Mondeuse Extra dont il faut que je retrouve la photo, un Pinot Noir d'Alsace, un Pinot Noir de Loire, un Pinot de Nice, un whisky. Je m'arrête là, mais eux ne se sont pas arrêtés là. Donc voilà, on connaissait l'accord huître et blanc sec, huître et liquoreux, mais sachez, chers auditeurs, qu'avec une bonne dose de mauvaise foi, tous les accords sont possibles.
Je rappelle qu'à Bordeaux, la tradition, c'est sauterne et huître.
Exactement, mais alors, je vais vous demander, vous, les huîtres rouges.
Petite saucisse,
crépinette.
Et pour le coup, un vin rouge aussi, ça peut être.
On va en parler après.
Ouais, exactement.
Bon, huître et vin rouge, je vois que ça ne vous fait pas non plus rêver complètement, si?
Non, on va attendre l'année prochaine, peut-être. Hein. Ouais.
Je pourrais reprendre la même chronique avec le pot-au-feu. Quel accord pour un pot-au-feu qui a engrangé quelques jours plus tôt quelques 106 commentaires sur la toile. C'est dire si on a envie de débattre en ce moment. Mais je vais aller vers du plus cinglant, du saignant, de la vraie bagarre qui a animé les réseaux sociaux pendant quelques semaines. D'un côté du ring, on avait André Fuster, qui est œnologue de formation, qui travaille dans une société de produits œnologiques, bref, qui vend des produits œnologiques. De l'autre, on a Pierre Guigui, que vous entendez parfois dans cette émission, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef de Goémie au vin, et très porté sur les vins bio. Autant dire deux personnes qui connaissent bien le sujet qui va suivre et qui n'ont pas du tout la même vision. Alors comment ils se sont fâchés à la base? C'est une chronique d'André Fuster dans le magazine En Magnum numéro 4 qui a tout déclenché à propos de la biodynamie et, sans relancer la polémique, des thèses racistes de Rudolf Steiner, l'inventeur de la biodynamie.
Ça, j'ai beaucoup écrit sur ça aussi, ça, c'est marrant.
L'accusation ne plaisait pas du tout à Pierre Guigui, qui voyait une critique de la biodynamie dans son ensemble, alors il le fait savoir sur Facebook, et là, ça part dans une violence assez réjouissante pour les lecteurs, comme on dit sur Facebook, on prend du pop-corn, on s'installe et on regarde comme au cinéma. Alors, les noms d'oiseaux ont volé assez bas. Ça partait de Guignol avec un costume trop large de Fouquier-Tinville de banlieue. Lâche, gros con, polémiqueur en mocassin à gland. Je m'arrête là par pudeur. Et voilà qu'un peu plus tard, dans leur magnum numéro 6, Pierre Guigui signe à son tour une chronique qui s'appelle En réponse à André Fuster, qui entraîne une nouvelle engueulade, un nouveau billet de blog d'André Fuster, parce que oui, il a un blog itinéraire, où monsieur s'insurge que Pierre Guigui a déformé ses propos. Un autre blogueur, Jacques Berthomot, s'en mêle, revient sur, je cite, « ce vendeur de trucs et de machins qui nous livre ses hautes analyses hautement contestables ». Bref, moi, je rentre toujours pas dans le fond de la polémique, mais je me plaignais du manque d'animation du web sur le vin. Ça nous a fait un chouette feuilleton d'automne. Plus drôle, beaucoup plus drôle, c'est la pastille vidéo « What the fuck, France ?» diffusée désormais sur Canal+, mais initiée sur YouTube. C'est un Anglais qui vit à Paris et qui dénonce avec énormément d'humour et énormément de grossièreté tous les petits travers des Français qui les rendent si charmants. Et l'une des premières vidéos évoquait, vous pouvez vous en douter, le vin. Alors, je vais pas tout vous raconter, je vous laisse regarder vous-même la vidéo qui dure 3 minutes, il suffit de taper « What the fuck, France ?» le vin. Mais quand même, je ne résiste pas à cette blague très drôle et très vraie, où Paul Taylor, le narrateur, nous explique qu'en France, il faut tout connaître sur le vin, sa couleur, sa région, son millésime, et au restaurant, qu'est-ce qu'on mange avec. Alors que finalement, à moins d'être un fondu de vin comme nous tous à cette table, on sait très bien que quand on doit choisir un vin au restaurant, on choisit toujours le deuxième moins cher de la carte.
Ben oui, c'est ça, pas le premier, autrement, vraiment, bon.
On passe pour un radin. En bref, une photo et une vidéo qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui montrent une petite invention d'une agence italienne. Elle propose de transformer l'étiquette d'une bouteille de vin en petit livre. On détache une ficelle qui retient les pages et on lit le livre à même le vin. L'agence est partie du principe qu'on lisait sur plein de supports, tablettes, ordi, téléphone, pourquoi pas, sur le vin. Je sais pas si c'est un vin à lire ou un livre à boire, mais ça fait deux cadeaux en un. Et si c'est pas très pratique, c'est super élégant, je vous promets. Et puis, comme chaque année, la douce Eva Robineau, sur son blog Enos des vins de Loire et d'ailleurs, propose le calendrier de l'Avent. C'est un peu comme le calendrier de l'Avent, mais pas tout à fait. Le principe est super simple, super tout court d'ailleurs. C'est de donner la parole chaque jour à un contributeur, qu'il soit simple amateur, blogueur ou professionnel du vin, pour qu'il raconte une bouteille. Il y a tout, du château Mille Roses à Margaux, du Maroula en vin de France, du domaine Letia en Corse. Je ne vais pas tous les citer parce que ce qui compte finalement, c'est moins le choix de la bouteille que le texte qui l'accompagne, un poème, un souvenir, le récit d'une rencontre. C'est assez émouvant parfois et surtout, ça montre bien à quel point le vin est une histoire d'homme et qu'il donne envie d'en parler. Une histoire de femme, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse méditer pour la conclusion. Quel vin, vous mettriez dans votre calendrier de l'Avent ?
Oh, c'est excellent. Ça. On réagit sur les différents sujets d'Ophélie. Là, c'est sérieux, pas sérieux, polémique, on se tape, on se traite au nom d'oiseau, puis on s'aime quelque part aussi.
Je pense que le vin nous unit quelque part, mais ça peut diviser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent à avoir raison. Or que je pense qu'en matière de vin, on ne peut pas avoir raison. C'est une question de goût, donc c'est une question d'esthétique individuelle. Après, les gens mêlent toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir là-dedans, qui relèvent plus de la religion, des croyances. Je vois pas l'utilité. Discuter, c'est très utile, mais de s'engueuler, je n'irai pas jusqu'à là.
Ouais,
je
comme trouve que c'est... quelqu'un qui vote à gauche de voter à droite. Quoi,
oui, c'est un peu ça.
Malheureusement, c'est bon.
C'est un peu ça, et souvent ces prises de position sont aussi des prises de position politiques. On mêle un peu tout. Ce grand débat sur le biodynamie, moi j'ai participé largement à ça sur le blog que je partage, les 5 du vin, et je constate que chaque fois que j'attaquais un tant soit peu le biodynamie, on avait une avalanche de commentaires plus ou moins aimables, plus ou moins étayés.
Et ça vous touche, ça, ces genres de critiques, David, où vous dites éloge de la différence, on peut ne pas être d'accord.
Non. Je trouve que la critique est tout à fait justifiée dès lors que ça ne devient pas des critiques ad persona. C'est le problème, c'est quand on attaque la personne et pas le sujet. Ouais, quand on reste sur le sujet, c'est bien. Donc ce que, par exemple, Jacques Berthomot a dit dans les commentaires qu'Ophélie vient de rapporter, je trouve que c'est pas tout à fait dans le sujet.
Oui, c'est pas forcément lui parce que c'est quand même quelqu'un de très bien. Philippe Arbrac,
force de constater que ça réagit beaucoup. Ouais. Dès qu'il y a un sujet un peu polémique, dès qu'il y a quelqu'un qui s'engage d'une façon particulière, et surtout autour d'ailleurs actuellement de la bio, de la biodynamie, etc.
Et les vins nature,
du soufre, etc.
Sur un réseau social, et c'est parti, quoi.
Il y a un flot de réactions. Alors moi, je regarde de temps en temps, et puis après, j'abandonne parce que après, on rentre dans une autre façon, un autre angle.
Vous répondez ou participez à ce genre de discussion? un blog
rarement, rarement.
Ouais, c'est compliqué. Faut quand même passer du temps. Hein. C'est,
ça, et vous, Félie, alors vos avis là, votre avis en tout cas sur les différents sujets abordés pour les parties un peu, c'est bien de nous relater ce qui se raconte sur la toile.
Mais oui, mais ce qui est amusant, c'est que les gens aiment se taper dessus quand même sur la toile et qu'ils prennent n'importe quel prétexte. Et comme disait David, c'est très politique. C'est vraiment le plaisir de critiquer l'autre pour en fait ce qu'il est, ce qu'il représente, plus que pour ce qu'il dit.
Oui,
alors moi, j'ai toujours du mal en fait à prendre parti comme ça. Je préfère effectivement regarder avec un bon paquet de pop-corn. Ça m'amuse beaucoup plus parce qu'on les voit, puis on voit en direct les commentaires apparaître seconde après seconde. C'est assez rigolo.
Et le dialogue, dans cette fin d'année, il se multiplie sur la toile ou alors ça reste stable? On se tape dessus toute l'année, quoi.
Les blogs se sont faits un peu rares en ce moment.
Ah, et pourquoi?
Je sais pas. À une époque, on polémiquait sur les blogs et maintenant, c'est vraiment Facebook, Instagram, Twitter, c'est les réseaux sociaux qui prennent le
relais. Je suis absolument nul. Je n'existe pas sur ces trucs.
Si je peux me permettre, il y a moins de recul. On est plus dans la spontanéité de la réaction et du coup, c'est souvent un peu moins structuré en termes de.
Et là, s'il y a moins d'analyse parce qu'on écrit moins long.
Oui,
comme on écrit moins long, on essaye de donner des avis à l'emporte-pièce et on réfléchit moins.
Et pour finir, c'est moins intéressant.
Et vous, votre blog, Félix, c'est quoi?
C'est Miss Glouglou, mais c'est pareil, il est un petit peu endormi. Ça fait un an que j'ai rien posté dessus et j'ai très honte.
Ça fait un an?
Un an.
Oh là 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 là.
Ça va
bon,
pas,
allez, c'est pas grave. Et alors pour Noël, tout s'annonce bien alors?
Oui, un petit garçon qui grandit, tout va bien.
Ah, c'est super.
Le monde qui a décidé de travailler sur le vin, donc on a plein de projets.
Merci beaucoup, Félix Neyman, du BFM. On trouve notre meilleur sommelier du monde à nous, il est qu'à nous, pour nous parler d'un vin passionnant, étonnant, polémique. Séduisant, le vin de paille.
Je sais pas si c'est polémique en tout cas.
Je croyais qu'on partait en Suresnes pendant quelques secondes.
Ça a failli. J'ai hésité pas mal.
Vin de paille de Suresnes.
Bon, j'espère que personne ne va se retrouver sur la paille en tout cas. Ou alors juste comme un doux petit Jésus au pied de son sapin.
Oh, c'est mignon ça.
Et j'ai eu envie de vous parler de ce vin de paille parce qu'il évoque effectivement pour moi ce que l'on aime à boire dans ces fêtes de Noël. C'est un vin rare. La tradition, elle est avant tout jurassienne, mais pas que. C'est vrai que dans le Jura, il y a cette tradition. Alors, c'est quoi d'abord un vin de paille? C'est un vin qui est élaboré à partir de raisins qui sont faits par tri successifs, donc très concentrés par le côté vendange tardive. Et ensuite, ils sont mis à sécher.
On vendange quand, Philippe?
On vendange, alors ça dépend des années, ça peut être fin septembre, octobre, même des fois un peu plus tard. Il ne faut pas que ça soit atteint de la pourriture d'homme, donc il faut juste qu'il soit desséché partiellement et pas trop desséché non plus. Parce que sinon, on est sur un vin de type passerillé, c'est-à-dire un dessessage sur pied. Alors que là, on ramasse le raisin, finalement, encore avec une concentration en eau suffisante, de manière à le faire sécher sur ces fameuses clés qui étaient à l'origine en paille, même si elles sont maintenant plutôt en fil de fer ou fil inox. Mais d'où le nom vin de paille, c'est parce qu'on faisait sécher le raisin sur la paille. Alors, dans le Jura, il y a une obligation de faire sécher au minimum 6 semaines. Dans un hangar ventilé qui a comme effet effectivement de faire en sorte qu'il y ait une déshydratation, mais qu'il n'y ait pas de pourriture de champignons qui se développent autour des raisins. Et ensuite, on presse ce raisin ainsi partiellement séché pour obtenir un jus extrêmement concentré. Hein. Pour vous donner une idée, pour faire une bouteille de 75 centilitres d'un vin blanc normal, il faut 1,5 kg à peu près de raisin. Pour faire 37 centilitres dans une demi-bouteille de vin de paille, il faut 2 kg de raisin. Donc il en faut effectivement 4 ou 5 fois plus. Donc du coup ça
prix
influence
aussi, peut-être.
Exactement sur le prix final. Alors dans le Jura, on peut le faire avec tous les cépages jurassiens, le fameux savagnin, le chardonnay, mais également qui sont des blancs, mais également des rouges, le poulsard, le trousseau ou encore le pinot noir sont les cépages autorisés dans l'appellation. On peut en faire partout, toutes les appellations, que ça soit Côte du Jura, que ça soit Arbois, que ça soit à l'Étoile ou encore à Château-Chalon. On peut faire différents types de vins et produire du vin de paille. Alors c'est à la fois une tradition locale et un vin rare, on peut s'en douter, qui a des arômes qui rappellent le confit, les notes d'agrumes également, et ça lui donne justement une certaine fraîcheur. On trouve des fruits secs, on trouve des fruits exotiques également, des notes caramélisées, enfin en fonction des millésimes.
Il n'y a pas de minéral, là, en référence à l'émission de la semaine dernière.
Non, c'est pas nécessairement la vocation exprimée par ce vin. C'est vrai que la minéralité, on en parle régulièrement. On est plutôt sur le confit que sur le que sur
très bien
que sur la cité.
Combien ça coûte une bonne bouteille de vin de paille?
Alors
une paille.
Le prix est eu égard à la qualité ou à la rareté fait qu'on a des vins de paille à partir de 25 € la demi-bouteille, mais ça peut aller nettement plus cher sur certains vignerons, et surtout c'est un vin qui se garde, donc les vignerons en gardent aussi. Et lorsque on goûte ou on achète un vin de paille qui a 10 ans ou 20 ans,
c'est sûr que c'est pas le même prix qu'un Vanpike qui a un petit peu moins de temps. Oui, Ophélie.
Oui, moi j'ai une question. Il y a deux choses que j'adore avec le Vanpike. La première, c'est qu'une fois qu'on l'a ouvert, on peut le garder super longtemps.
Combien de temps?
Grâce au sucre.
C'est vrai.
Temps, je ne sais pas, mais 3 semaines, il y a
plusieurs semaines, sans problème.
La deuxième chose que j'adore et qui m'étonne, c'est cette couleur. Parce que parfois, les Vanpike sont cuivrés, mais un orangé légèrement rosé, c'est magnifique. Ça vient d'où?
Alors, ça vient. Alors, déjà, pour le Jura, ça vient des cépages qu'on utilise, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait blanc et rouge. Donc, c'est vrai que ça colore quand même le jus. Et ensuite, il faut 6 semaines, donc, de vieillissement du raisin, quelque part. Et ensuite, on met en fût, et ça peut durer plusieurs années en fût. Parce que la concentration en sucre est telle que les levures ont du mal à travailler, et donc ça se fait très doucement. Après, dans la partie froide de l'année qui suit, ça bloque les fermentations.
Je veux faire la fermentation d'un vin de faille.
Et ça dure très longtemps, donc on peut plusieurs années de fermentation. Donc en fût obligatoire, par exemple. Donc du coup, ça colore aussi. Et on a effectivement une différence de variété de couleurs qui est juste extraordinaire. De l'orangé, du cuivré, de l'acajou, du caramel, etc. C'est vraiment très très beau. Il y a une chromatographie.
C'est très beau, absolument. Une bouteille de Vanpike.
Alors on ne fait pas du Vanpike que dans le Jura, même si c'est la principale région. On fait du Vanpike également en Ermitage. C'est une tradition ancienne également, un peu dans le même esprit, selon le même modèle. Avec effectivement d'autres cépages, puisqu'en Ermitage, on le fait essentiellement à partir de Roussanne et de Marsanne, mais également, pourquoi pas, un peu de Syrah, mais c'est surtout la Roussanne et la Marsanne qui sont les cépages d'Ermitage qui sont utilisés. Il y a une tradition, et il y a d'ailleurs, ce sont les deux appellations en France, Jura donc, et Ermitage, qui ont le droit d'utiliser cette mention vin de paille, même si les Jurassiens auraient bien aimé se l'approprier d'une façon précise et uniquement. Il y a effectivement une tradition, et donc une possibilité pour revendiquer l'Ermitage.
Et vous dites au niveau gastronomique, alors comment on fait?
Alors au niveau gastronomique, ça, c'est quasiment une vin de méditation. On peut le goûter seul, presque à n'importe quelle heure, en se mettant devant Facebook et avec les pop-corns, ça peut être pas mal aussi, hein, si on a les moyens. Ensuite, c'est compliqué à servir sur un mets, franchement, parce que c'est très dense, très puissant, et même si on dit sur du foie gras, du fromage et tout, ça peut aller, c'est à mon avis très difficile. Sur du chocolat, c'est pas gagné, mais sur des chocolats orangettes, par exemple, ça fonctionne très bien. Orangettes ou pas que, d'ailleurs, citronnettes, gingembrettes, enfin, etc. Le mélange de fruits confits, en tout cas, et chocolat noir surtout, c'est juste une merveille. Mais plus simplement avec des petits fruits secs. En fin de soirée, si vous avez un réveillon qui perdure un peu, si vous dormez sur place, si vous voulez juste vous faire plaisir, si vous êtes juste au moins deux, vous pouvez ouvrir une demi-bouteille. Ouais. S'il en reste, vous avez compris qu'on peut le garder en plus.
Vous aimez, David?
Oui, j'aime beaucoup. Oui.
Alors ça se sert. C'est dommage de le boire un peu jeune. Il faut quand même l'attendre au moins 5 ans et mieux encore 10 ans. Moi, je l'aime beaucoup à la température de cave, c'est-à-dire pas trop froid, il faut pas le mettre trop frais, c'est vraiment ça. Dommage. Il faut pas non plus monter en température parce que la générosité du sucre, pas tellement de l'alcool parce que finalement on n'est pas sur un vin qui est très très alcoolisé. Sur Vanpike, un peu le même phénomène que sur les vins glaces. On a un degré d'alcool qui est relativement faible, mais la sucrosité fait que si ça c'est trop chaud, ça va pas. Mais par contre, entre une douzaine de degrés, c'est vraiment de la température.
Un ou deux pour en profiter. Peut-être à mentionner.
Oui, bien sûr. Alors, en Ermitage, il y a la cave de Tain, notamment, qui est celle qui en produit pas dix-neuf le plus, mais la maison Chapoutier ou la maison Chave, qui sont des grandes maisons, en font aussi. Et côté Jura, le Jacques et Mireille Tissot, le domaine Macle, Berthe Bondé ou le domaine Généletti, par exemple, sont parmi ceux qui font très bien.
Merci beaucoup, Philippe Arbac. Nous marquons une toute petite pause et ensuite retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, 31 place de la Madeleine, pour une balade où? À l'île Maurice.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant bar à vin Nicolas Paris, 31 place de la Madeleine. Pour la suite de notre émission en public et délocalisée, je vous propose d'écouter Patrice Legris, le directeur général d'Alteo Property, que j'ai rencontré il y a quelques jours dans les salons de l'hôtel Shangri-La, à Paris toujours. Bonjour Patrice Legris.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Alteo Property. Vous êtes né à l'île Maurice en 1957. Un diplôme de la Sorbonne et également de l'université de Maurice. Un mot sur ce groupe. Alors au départ, les activités du groupe, c'était dans la canne à sucre et dans l'énergie.
Absolument. C'est un groupe qui est jeune, qui date de 5 ans, mais dont les actionnaires, les parents, sont des très, très, très vieux groupes mauriciens et très importants. Et ce groupe a été créé pour rationaliser les activités sucrières et pour devenir un acteur régional très important. Nous sommes notamment présents en Tanzanie et au Kenya.
Également, et en 2000, c'est en 2000 que vous avez lancé un programme immobilier de luxe, en tout cas haut de gamme, ambitieux.
En 2005, un programme très visionnaire, suite à une loi cadre qui avait été passée à l'île Maurice, permettant justement le développement de certaines zones immobilières destinées à la vente aux étrangers. Donc ce sont des produits sur le marché international, destinés aux étrangers, sans contrôle de change, sans aucune restriction concernant la revente de ces produits.
Donc en pure propriété, c'est-à-dire que ça leur appartient.
En pleine propriété, donc qui peuvent retransmettre soit à leurs héritiers, soit revendre à n'importe quel moment.
Le choix quoi. La clientèle, il y a un peu de français. Les Mauriciens sont francophiles et francophones parfois.
Exactement. Et notre plus grand marché, c'est le marché francophone, principalement les Français, mais aussi quelques Belges et quelques Suisses. Je dirais majoritairement, donc, les propriétaires sont d'origine européenne, pas mal d'anglais aussi, et ce qui constitue environ 75% de notre
quand
marché.
Même, quoi. Et alors, vous pourriez avoir une équipe de rugby, vous êtes très 15 en termes de fiscalité, 15% de taxes.
Absolument. Donc, il y a à peu près une dizaine d'années, tout le système fiscal a été grandement simplifié. Et aujourd'hui, donc, toutes les taxes sont à 15%, donc la TVA, les impôts sur le revenu, les impôts sur les compagnies. Et c'est une fiscalité très légère où il n'y a pas de taxes sur les dividendes, pas de taxes sur les droits de succession. Et voilà, donc c'est...
C'est presque le paradis, votre île. Hein.
C'est pas un paradis fiscal, mais c'est une fiscalité légère.
Bon, vous avez également des projets avec Jean-Michel Villemotte, des projets ambitieux.
Absolument. Donc nous avons développé Anahita donc de manière par phase. Et nous sommes arrivés là à une phase où nous avons des lots somptueux sur la mer, sur l'eau juste en face de l'île, la fameuse île aux cerfs, et des lots de 4000 à 5000 mètres carrés. Donc nous avons voulu optimiser le développement de ces lots et nous avons fait appel à Jean-Michel Villemotte.
Et avec quelques villas qui seront magiques dans quelques années. Quoi.
Qui seront magiques, des villas de 900 à 1000 mètres carrés avec des volumes extraordinaires. Et Jean-Michel Villemotte est venu à l'île Maurice et est venu à Anahita pour comprendre le lieu, l'environnement, le pays. Et il a proposé des plans que je qualifie d'exceptionnels en alliant du très contemporain, mais aussi en prenant des matériaux locaux, beaucoup de pierres basaltiques.
Innovation et tradition.
Innovation, un peu voilà. Ce sont des produits finalement internationaux, mais avec une touche mauricienne.
Alors je sais, Patrice Legris, que vous adorez le vin. Vous écoutez chaque week-end Invino, le week-end à l'île Maurice, sur Internet. Voilà. Et puis vous avez commencé par aimer le vin quand vous étiez tout petit. Vous vouliez devenir œnologue.
Exactement. Alors c'est assez atypique parce que mes parents ne sont pas du tout fanatiques de vin ou à la maison il y a eu très très peu d'initiation au vin. Et ça m'est arrivé à travers mes amis. À l'âge de 20 ans, j'ai découvert le monde du vin et je voulais à un moment faire des études d'œnologie. Mais comme je voulais retourner à l'île Maurice, l'œnologie à l'île Maurice et le vin à l'époque,
c'est plus compliqué. Mais quand vous étiez étudiant, vous alliez acheter une bouteille de Pommard pour 70 francs. Exactement. C'est une fortune, ça a vidé votre portefeuille, ça.
C'était une fortune. J'avais eu à travers quelqu'un qui m'avait offert un présent en argent à l'époque et c'était la chose que je voulais acheter. Donc c'est un château Pommard, je me souviens très bien. Que j'ai consommé quelques années après.
Il était bon, moi ?
C'était excellent.
Et alors, côté blanc, vous avez commencé par l'Alsace et ensuite vous avez bercé vers la Bourgogne.
Exactement. Alors, et du côté, il y a une évolution énorme et extraordinaire au niveau de mes goûts de vin. J'ai commencé par le Bourgogne et je termine aujourd'hui. Je suis un fanatique vraiment de.
Vous êtes plutôt rouge ou blanc, Patrice ?
Plutôt rouge. Et au niveau des blancs, effectivement, au départ, c'était les vins d'Alsace. Et aujourd'hui, c'est vraiment les vins de Loire ou les vins, les Bourgognes, les vins secs. Et je dois dire qu'au niveau des vins secs aussi, à l'île Maurice, on a pas mal de bons vins néo-zélandais.
Bien sûr.
Ou le Cloudy Bay, notamment.
Bien sûr.
Ou alors aussi sud-africains, qui sont pas trop mal en blanc.
Et dans votre cave personnelle, combien de bouteilles vous avez ?
Environ 450 bouteilles à peu près.
C'est bien ça. Et vous achetez des primeurs.
Des primeurs. Et j'ai l'occasion aussi, par moment, de ramener de bonnes bouteilles de vin. C'est une passion. C'est vraiment une passion.
C'est important. On peut trouver du bon vin parce que c'est bien d'acheter vos villas. On va en acheter massivement. Les auditeurs d'une Gino BFM. Mais quand même, il faut aussi pouvoir s'approvisionner avec quelques bonnes bouteilles. Avec modération, certes, mais quelques-unes.
Ah oui. À l'île Maurice, aujourd'hui, nous avons cinq importateurs de grande qualité. Donc, avec lesquels vous pouvez commander des primeurs. primeur, mais aussi vous pouvez acheter de très très bonnes bouteilles, de très bons millésimes.
Bien conservés.
Bien conservés. Et j'ai des amis qui ont des caves de 3 000 à 4 000 bouteilles de vin, avec qui de temps à autre on fait de belles soirées avec de très très bons vins pour déguster.
Et quand vous êtes de passage à Paris, ce qui est le cas aujourd'hui, côté gastronomie, un bon plateau de fruits de mer, et puis après les rognons flambés, là vous êtes très 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 heureux, Patrice.
Absolument. Les rognons flambés, les triples, enfin, beaucoup d'abats, les côtes de bœuf. Et justement, c'est ce mariage de bonne nourriture avec un bon vin, c'est pour moi indissociable. Donc c'est impossible de manger un bon plateau de fromage sans un très bon vin avec, sinon il y a quelque chose qui manque.
Voilà, c'était Patrice Legris, le directeur général de l'Alteo, pour ce beau voyage au pays des amateurs de vin à l'île Maurice. Et Dino BFM retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de sa trilogie avec de T. Il y a 3 T. 1, 2, 3. C'est quoi les 3 T?
Alors, il y a 3 T. On pourrait mettre un quatrième, tarte à la crème.
Ou tais-toi. Non, c'est pas vrai.
Donc, les 3 T qui m'interpellent, on trouve que quand même, il y a une résonance des T dans les mots de vocabulaire très souvent utilisés pour le vin. J'ai nommé tradition, typicité et terroir. Je vais tenter des définitions ou des non-définitions de ces trois mots. On va commencer par tradition, si vous voulez bien. Alors, tradition, je compte plus le nombre de cuvées de vin qui comportent le terme tradition ou cuvée tradition. Alors, c'est aussi vrai en Champagne qu'à Bordeaux et parfois ailleurs. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que ces cuvées sont presque toujours les cuvées entrée de gamme d'un producteur lorsqu'il produit plusieurs cuvées. Et je trouve là-dedans une petite contradiction, parce que lorsque les gens tiennent un discours sur la tradition, j'entends « je suis fidèle à ma tradition » ou « la tradition de la famille » ou « je respecte les pratiques traditionnelles », c'est-à-dire qu'ils mettent ça comme un élément de très haute importance.
Et sacré, c'est sacré.
Voilà, c'est sacré. Donc, pourquoi est-ce qu'ils dévaluent ce concept en mettant leur cuvée le moins cher nommée tradition? Ça me paraît paradoxal. Bon, premier paradoxe. Alors, une fois, lors d'une présentation de vin de Bordeaux, j'étais à un stand, je goûtais les vins d'un jeune producteur de Bordeaux, Bordeaux supérieur, sur lequel il était marqué, comme souvent, cuvée tradition, et je l'interpellais là-dedans. Je lui ai dit, mais que cela signifie-t-il pour vous? Il m'a dit, c'est fait en cuvée inox. Donc, j'ai respecté une petite pause quelques secondes de réflexion, et j'ai dit quand même, mais le premier cuvée inox, il était introduit à Bordeaux dans les années 60 à Château-Aubriant, et puis je pense que votre père, en Bordeaux, Bordeaux supérieur, n'a pas eu un seul cuvée inox avant les années 80, voire 90. Quelque part, la tradition, là, est très très courte, elle évolue très vite. Et ça m'a fait penser aux mots du poète et auteur dramatique Jean Cocteau, qui disait ceci à propos de tradition. La tradition est une chose vivante et celui ou celle qui la regarde en se retournant risque de se voir transformé en statue de sel. Ce qui fait écho à l'histoire biblique de la femme de Lot qui se retournait vers Sodome et Gomorre l'ayant quittée et malgré avoir été prévenue par Dieu qu'il fallait pas se retourner, elle l'a fait, elle a été transformée en statue de sel. Autrement dit qu'il faut pas regarder tout le temps dans le rétroviseur parce que si vous conduisez une auto en regardant dans le rétro, vous rentrez dans une bagnole ou dans un mur. Hein, donc c'est pas très bon. Alors tradition n'est pas qu'une affaire de passé. Donc c'est pas facile de définir ce que c'est que la tradition, sur quelle période on se base, pour quelle pratique. Et je me souviens d'un copain australien qui me disait, la tradition c'est juste la somme des erreurs du passé. Alors deuxième mot, typicité. Ce mot semble être un peu la pierre philosophale de l'Institut national des appellations contrôlées. Je sens que Philippe va bouillir sur sa coiffe de président. C'est-à-dire quelque chose qui sera capable, selon les alchimistes, parce que la pierre philosophale, c'était le produit magique des alchimistes, de changer les métaux vils en métaux précieux, de guérir des maladies et de prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. Car on parle de la nécessité pour les vins d'une appellation donnée de respecter la typicité de celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. J'ai imaginé qu'on pourrait écrire une formule en introduisant le somme des paramètres d'une appellation, c'est-à-dire le climat, les cépages, les différentes règles de taille et de production. Et ensuite, on le divise par le nombre de vins produits dans l'appellation. On obtiendra la moyenne de cette appellation. Ça peut être très vite calculé par un ordinateur, par exemple, si on donne des valeurs à ces sommes. Le résultat d'une telle approche est d'éliminer les meilleurs, comme les plus mauvais, en tout cas, de couper les extrémités. C'est un peu comme dans la distillation, on coupe les queues et les têtes. Et en anglais, on appelle ce syndrome le tall poppy syndrome, c'est-à-dire que dans un champ donné, on coupe tout ce qui dépasse pour avoir un champ uniforme. Alors, il me semble que ce concept de typicité est aussi très lié au mot précédent, tradition, parce que ce qui est considéré comme typique doit l'être depuis un certain temps, parce qu'il faut un référent historique basé sur un cumul d'expériences. Sinon, on n'a pas notion de typicité. Ça existe dans le temps. On est donc dans l'immobilisation la plus totale, l'immobilisme le plus total, pardon, ce qui n'est pas une très bonne chose en matière de vin, parce que les techniques, comme les marchés et les goûts, évoluent, avis aux responsables de l'INAO. Troisième terme, terroir. Et j'ai le temps pour aborder le terroir ?
Avec plaisir.
Bon, alors, cela c'est plus facile a priori, parce que, bon, c'est beaucoup plus utilisé, et on peut trouver des définitions qui tiennent la route. En tout cas, je vais tenter de vous en donner une. Le problème est que les interprétations selon les individus varient pas mal, c'est un peu comme le Coran, hein, c'est sujet à interprétation. Pour moi, le terroir, c'est l'ensemble du milieu naturel. Sauf que le milieu du vin, de la vigne, n'est pas vraiment naturel. On n'est pas planté au milieu de la forêt amazonienne, ni sur une banquise.
Pas encore, David.
Ni dans une savane en haut du Kenya, pas touchée, sauf par les animaux.
Vous connaissez le Kenya, pas ?
Oui.
Alors, vous aimez ou pas ?
Eh ben, moi, j'aime beaucoup quand c'est pour aller voir les animaux. Je suis toujours partant.
Les animaux avec un Z comme vous avez dit.
Les animaux ?
David.
Oui. Ah oui, on était dans les savanes, donc on revient de nos éléphants et nos girafes pour parler de terroir. Donc on est au fait, en matière d'un milieu naturel, c'est un milieu aménagé par l'homme et parfois depuis des siècles, voire des millénaires, donc très modifié par l'homme. Alors ce milieu est constitué de quoi ? D'un climat local, appelons ça le mésoclimat pour être plus précis, c'est-à-dire un climat qui obtient sur une vallée ou sur une parcelle. D'une certaine qualité d'air, d'une température moyenne, des heures d'ensoleillement qui varient bien sûr en fonction de la météo, d'une pluviométrie, d'une orientation, d'une pente, de la présence ou pas d'une masse d'eau, de courant d'eau froide, d'eau chaude, d'air chaud, d'eau froide, pardon, d'air chaude, on se croirait dans un hôtel, d'altitude, mais aussi d'une manière plus importante ou moins importante, selon certains, ça varie les interprétations, de type de sol et de drainage, etc. Autrement dit, la topographie et le climat. Alors, le problème est que le discours qui domine en France, et surtout dans certaines régions, par exemple la Bourgogne, met l'accent presque uniquement sur le sol et le sous-sol. Or que, selon moi, c'est l'élément peut-être le moins important de cet ensemble. C'est important, certes, mais ça joue un rôle moins important que la météo, par exemple, que le climat. Alors, certaines personnes aussi étendent la définition pour inclure le cépage. Je trouve ça totalement inepte. Parce que soit le cépage, il est imposé par la loi, c'est-à-dire la règle de l'appellation, soit il est choisi librement, plus ou moins librement, si on est en vin de pays, ou en IGP, par exemple, ou dans un pays du Nouveau Monde, on choisit ce qu'on veut. Donc, quel que soit le terroir, on a le choix, ou on n'a pas le choix, mais c'est dicté. D'autres personnes incluent des techniques. Alors là, on rejoint la typicité et la tradition parce que c'est des usages loyaux et constants, donc ça fait partie du terroir. Si on fait ça, on fiche tout, parce qu'il n'y a plus d'évolution possible. Et si on fait ça, on obvie aussi la question de l'individu de chaque homme, de son choix de modifier ses techniques en fonction de la matière naturelle qu'il a chaque année, de sculpter différentes sortes de vins. Donc je trouve que si on introduit tous ces éléments-là, le terme est vidé de son sens, ça n'a plus aucune signification du tout, parce que c'est un tout.
Allez,
donc
on le terroir,
pour moi,
là,
c'est le milieu naturel.
Qu'est-ce que vous en pensez, Ophélie ?
Moi, ma définition préférée du terroir, c'est celle que j'ai lue dans Les Gouttes de Dieu, qui est un manga, donc une BD japonaise. Et
absolument
très tôt,
illisible.
Il se pose la question... Non, merveilleuse. Et il se pose la question très tôt de la définition du terroir, et leur définition est pour moi la meilleure, c'est... la terre, le ciel et les hommes. Ce qui veut dire, quand on dit les hommes, que c'est pas seulement les techniques, parce que ça permet une évolution, parce que les hommes évoluent, les hommes changent, la terre peut englober beaucoup de choses, le ciel peut englober beaucoup de choses, mais je trouve que c'est la définition finalement la plus générale.
Oui, mais
générale,
Ophélie, je dispute cela, parce que si on met les hommes dans cette équation, c'est tout. C'est tout ce qui fait un vin, donc ça n'a aucun sens.
Oui, Philippe Arbac, vous qui êtes un homme sensé.
Ah là là, c'est un sujet éternel. On l'a aussi sur la blogosphère ou sur Facebook, on en parle souvent de cette histoire de terroir, parce qu'on y met tout et c'est vrai que c'est un peu le refuge quelque part. C'est
quand on ne sait pas, on dit terroir.
Voilà. Et pendant longtemps, d'ailleurs, le goût de terroir, c'était juste pour expliquer que le vin était des fois pas terrible, mais que c'était parce que le terroir était plus fort que...
Ça avait un goût de terre, donc c'était un goût sale.
Mais ce qui est certain, c'est que... à mon avis, la définition la plus rationnelle, c'est un lieu avec ce que ça comporte, c'est-à-dire une histoire, une géologie particulière, un climat qui, on le voit, évolue en plus, donc c'est pas stable. Et l'homme, bien entendu, intervient, parce que si la vigne, c'est un élément sauvage, ça peut pousser, mais si elle a été taillée, sculptée, qu'elle donne les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est que l'intervention humaine est là.
Oui, mais c'est
au-delà de l'homme. C'est-à-dire que je pense que c'est avant tout un lieu avec tout ce que l'on peut ressentir dans ce lieu-là particulièrement.
Nous allons méditer. David Cobol, vous êtes d'accord pour qu'on médite ?
Méditons.
Merci David Cobol, du BFM. Accueille maintenant le nouvel invité, Vincent Prioux, directeur général du château Pasteur de la Montagne. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, vous méditez ou pas ? Il sort le terroir là, parce que je vous interpelle là-dessus, parce que bon, nous on en parle, on n'y connaît rien, tandis que vous êtes tous les jours sur votre terroir ou pas ?
Absolument, oui, mais je suis d'accord avec David. Pour moi, le terroir, il est. Le sol, bien évidemment, a son rôle. Je mettrai un rôle peut-être un peu plus important que David, qui a l'air de le minimiser. Le sol est important, mais le climat, bien évidemment, et comme disait Philippe, le climat évolue. Le climat est une composante très forte, et le microclimat, même le mésoclimat, attaché quasiment à une parcelle ou à une réunion de quelques parcelles, a une influence très forte sur le terroir.
Et alors, les autres thés, vous y pensez aussi ?
Oh oui, la tradition, je suis tout à fait d'accord.
Ah, la pierre de cuve tradition qu'elle est des 60.
Je ne dirais pas que l'inox. Je ne lierais pas l'inox avec la tradition.
C'est vrai. J'ai pas réagi sur la typicité, même si David m'a relancé quelquefois la perche. Mais c'est vrai que la typicité, là aussi, c'est quelque chose qui est jamais évident parce que ça évolue, ça bouge, etc. Néanmoins, c'est quand même un repère quand on fait des dégustations à l'aveugle et qu'on retrouve quand même un goût particulier ou qu'on est capable de dire ça, c'est un sauterne, par exemple, mais ça vient de telle partie parce que Barsac, ça n'a pas le même goût que Baume ou ailleurs.
Tout à fait. Oui.
C'est quand même une voilà.
Oui, parce que ça n'a pas le même goût.
Mais objectivement, ça n'a pas le même goût. Et si on est non seulement de déterminer que ça n'a pas le même goût, mais en plus de retrouver d'où ça vient, c'est qu'il y a bien quelque part une certaine.
Bien sûr.
Un certain type, en tout cas.
Je vous en perplexe.
Oui, non, moi, je trouve que, en fait, c'est l'individu qui est plus important que l'ensemble d'une appellation, toujours. Dans une appellation, quand je goûte souvent beaucoup d'appellations et beaucoup de vins dans une appellation, il y a énormément de vins. Variabilité de qualité et de style. Et ça vient de
la richesse, quand même, quelque part.
Bien sûr que c'est une richesse.
Vincent, vous êtes fils de viticulteur, vous avez commencé votre carrière dans le Médoc pendant 3 ans, c'est ça, vous faisiez quoi ?
Absolument, j'étais œnologue conseil dans un laboratoire et je suivais un certain nombre.
Vous êtes bordelais ?
Je ne suis pas bordelais d'origine, je suis bordelais de cœur, parce que j'ai fait mes études d'œnologie à Bordeaux, mais je suis arrivé dans le vin à Bergerac.
À Bergerac.
Une région qui n'est pas loin, très loin. Et dans lequel on fait des vins merveilleux.
Et aussi. Votre château, là, il appartient à qui alors, Bastard-la-Montagne ?
Alors, Bastard-la-Montagne a changé il y a 2 ans de propriétaire. C'était longtemps, comme tout à l'heure, appartenait à un institutionnel.
Oui, directeur général de la Maïf.
Voilà, donc nous faisons partie à l'époque du Crédit Foncier de France, et puis ensuite les caisses d'épargne, puisque le Crédit Foncier avait été racheté par les caisses d'épargne. Et il y a 2 ans, nous avons été rachetés par 2 familles. Une qui est très connue à Bordeaux, c'est les Catiards. Donc propriétaire du château Smith-Lafitte. Et principalement, nous avons été rachetés par la famille Moulin. La famille Moulin,
d'accord,
connue comme étant les propriétaires des Galeries Lafayette.
Alors on parle un peu de l'appellation sauterne, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des appellations qui ont quelques difficultés. Elles sont différentes ici. On parle des muscadets, des beaujolais. Mais les sauternes, c'est super bon, mais personne n'en boit. Alors qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous un peu d'abord la cartographie. Vous êtes situé où ? Vous êtes bien à Bordeaux, on est d'accord ? Combien d'hectares ? Et la typicité du sauterne, est-ce que ça fonctionne comme le vin de paille dont on parlait si bien tout à l'heure, Philippe Aubrac ?
Ah oui, alors on peut faire des parallèles avec le vin de paille, avec une différence majeure qui est le botrytis.
Vous êtes à Bordeaux, nous sommes d'accord.
Nous sommes à Bordeaux.
Combien d'hectares un peu total sur l'ensemble de l'appellation ?
Sur Sauternes, on est autour de 2000 hectares.
2000 hectares, d'accord.
Voilà, donc Sauternes et Barsac, hein, parce que ce sont deux appellations en une, en fait. Hein,
oui.
Ce sont deux composantes, mais qui sont de la même appellation.
C'est le seul cas, je crois, où une appellation peut s'appeler ou l'un ou l'autre.
Voilà.
D'accord.
Mais enfin, on n'a pas le choix non plus. Hein, c'est-à-dire qu'on fait du Barsac si on est à Barsac, on ne peut pas faire du Barsac si on est à Sauternes.
Mais je croyais qu'un Barsac pouvait s'appeler Sauternes.
Si, un Barsac peut faire du Sauternes, mais l'inverse, c'est pas vrai.
Oui, c'est pas vrai. Alors, côté cépage, vous avez quoi comme cépage ?
Le cépage roi pour un vin liquoreux de Sauternes, c'est le sémillon, qui a une capacité à botrytiser, donc à accepter ce champignon qui est un ennemi pour la plus grande partie des vignerons du monde et qui pour nous est un allié et un ami quand il arrive dans les bonnes conditions.
Il arrive
botrytis cinerea.
Et donc il arrive sur le raisin, donc au départ c'est un problème, non ?
Ben oui, c'est un problème s'il arrive trop tôt déjà, c'est un problème pour les rouges en général, c'est un problème majeur pour les blancs secs. Pour le Sauternes, s'il arrive au bon moment, parce qu'il faut qu'il arrive au bon moment, c'est-à-dire quand les raisins sont mûrs. S'il arrive quand les raisins sont verts, ça peut vite être la catastrophe.
On peut faire grise mine. Hein.
On peut faire grise mine. Donc voilà encore un élément où le ciel, justement, dont on parlait tout à l'heure, le climat est essentiel à Sauternes, mm-hmm. et on est complètement dépourvu, puisque c'est pas nous qui commandons l'arrivée du botrytis, c'est totalement le ciel. Et Vincent, alors on a quand même quelques aides avec nous, c'est-à-dire entre autres le fameux brouillard, hein, le fameux brouillard du Ciron et de la Garonne. On est en fait au confluent entre la grande rivière qui est la Garonne et le Ciron qui est un petit affluent. Qui a des eaux un peu
donc
plus chaudes.
Il y a beaucoup de brouillard, c'est bon ou c'est pas bon?
Oui, parce que le brouillard, si vous voulez, maintient une certaine humidité au niveau des pieds de vigne, et conjugué après avec le soleil d'automne, les fameux étés indiens qu'on a depuis quelques années, ils sont assez favorables, permettent à ce botrytis de se développer. Ce sont les meilleures conditions pour le botrytis.
C'est un champignon, c'est comme pour les cèpes. Les cèpes, ça pousse à l'automne quand il y a une humidité le matin et un soleil l'après-midi.
Voilà. Il faut de la chaleur amenée par le soleil et il faut l'humidité le matin. Et qui est un peu plus, qui dure un petit peu plus, puisque le brouillard met quelques heures à se dissiper.
À disparaître, quoi. Voilà. Comment on fait pour vinifier un Sauternes, pour obtenir un Sauternes?
En fait, tout se passe à la vigne. La vinification, on en parlera, si vous voulez, rapidement après, mais tout se passe à la vigne. Il faut trier X fois. Alors, ça peut être 3 fois, 4 fois, 5 fois. On repasse dans les mêmes parcelles et on choisit les raisins que l'on veut pour là où le botrytis, si vous voulez, nous semble le plus adapté, si vous voulez, à faire du vin liquoreux.
Donc c'est très cher parce que
c'est très cher. Et bien sûr ça se fait à la main
uniquement.
Hein, c'est obligatoirement à la main.
Parce qu'on n'a pas inventé la machine.
On n'a pas inventé la machine à trier à juger. C'est vraiment à l'œil uniquement. On peut goûter si on veut, mais il y a 60, 80, 100 vendangeurs qui travaillent. Donc on leur apprend à le faire à l'œil.
Et aujourd'hui, donc, vous produisez combien de bouteilles pour votre château?
Alors nous avons 50 hectares et on produit, suivant les millésimes, entre 100 000 et 140 000 bouteilles, tout vin confondu, parce qu'on fait plusieurs vins, bien sûr.
Et après, il faut les vendre un petit peu. Vous les vendez où?
On les vend un peu partout dans le monde, mais les marchés historiques, bien sûr, c'est la France, hein, traditionnellement. Les pays proches de l'Europe, c'est-à-dire l'Angleterre depuis très longtemps, la Belgique, un petit peu la Suisse. Et puis, on en vend pas mal aux États-Unis, parce que les États-Unis sont assez friands sur les vins de Sauternes.
Et au niveau accord, mets et vins, donc la gastronomie avec un Sauternes.
Alors
on parlait des huîtres, ne me dites pas quand même qu'on boit du Sauternes avec des huîtres,
si,
voyons
sûr,
Vincent.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, ça me va très bien. Mais les Sauternes, ça se boit avec beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Il faut essayer. Il y a plein de moments pour boire du Sauternes. On peut boire du Sauternes à l'apéritif, on peut le boire bien sûr. En période de fête, nous sommes à la veille de Noël, le foie gras est une tradition, c'est comme ça qu'on pourrait dire.
Dans les culinaires, c'est foie gras aussi, on met les poulets dedans.
Je ne vais pas réfuter cette tradition, bien sûr que ça va bien, bien que le foie gras, ça puisse aller très bien avec le vin rouge aussi. Mais le Sauternes se boit avec pratiquement toutes les volailles. Un poulet rôti, sur lequel en fin de cuisson, vous arrosez un petit peu de Sauternes, c'est délicieux. Toutes les viandes blanches, des poissons en sauce, un certain nombre de fromages, alors bien sûr, un accord qui est remarquable, traditionnel aussi, si on veut, c'est le Roquefort. Mais d'autres fromages bleus vont très bien. Il y a alors après certains desserts. Il faut éviter le citron, ça c'est très important. Mais une bonne salade d'orange, c'est tout simple, une salade d'orange, des bonnes oranges bien mûres avec éventuellement un trait de cannelle dessus. C'est remarquable.
Combien ça coûte une bonne bouteille de Sauternes chez vous? À peu près en prix client TTC.
Nous, une bouteille de Bastor la Montagne, c'est pas cher quand on connaît la
difficulté, le boulot
et la production qui est très faible. Vous savez qu'on produit maximum autorisé par la loi, c'est 25 hectolitres hectares.
25 hectolitres.
Voilà.
Mais c'est des bouteilles souvent beaucoup moins.
Et souvent beaucoup moins, c'est-à-dire qu'une année, en moyenne, on est entre 15 et 20. Voilà, 15 à 20 hectolitres.
Et donc ça donne.
Et on est entre 25 et 30 euros la bouteille.
Ouais, voilà. Ça c'est vraiment plus cher quand même. Comment est-ce qu'on explique ce désamour, ce désaveu? Pourquoi les Français ne boivent pas, Ophélie?
Alors moi je vais faire un peu de pub parce que j'avais fait un gros sujet dessus dans Le Monde le mois dernier, donc j'avais un petit peu travaillé la question. Pour moi il y a quand même quelque chose de très triste, c'est cette histoire de foie gras. Alors c'est très mignon, hein, le Sauternes et le foie gras, c'est très sympa.
Ah, c'est à cause du foie gras.
Résultat, Sweet Bordeaux, qui s'occupe donc des liquoreux, avoue qu'entre 70 et 90% des liquoreux des Sauternes sont achetés pour Noël. Ça veut dire qu'on ne boit plus de sauternes en dehors de Noël.
Et une bouteille à Noël pour accompagner le foie gras, effectivement.
Ouais, et c'est tout. Alors qu'effectivement, on aurait dû depuis longtemps insister sur.
Mais est-ce qu'il y a pas aussi le côté sucré qui est un peu à la mode? Il faut le dire, quand c'est sucré, c'est pas forcément très bon. Il y a quelques hygiénistes qui ont dit que ça faisait grossir. C'est pas vrai, c'est comme le confit,
alors,
c'est pas là.
Je trouve là-dedans une espèce de paradoxe extraordinaire. C'est pas le seul paradoxe français d'ailleurs, mais c'en est un. Ce paradoxe où les gens mangent et boivent de plus en plus de produits sucrés, les sodas. En veux-tu, en voilà, il y en a partout. Des produits sucrés dans les aliments à table. Rejette une boisson qui est noble et qui contient du sucre. Donc c'est complètement paradoxal pour moi.
Et là, pourquoi, David, il n'y a pas d'avantage. Sucré, c'est pas grave, mais boire sucré, c'est quoi le problème alors?
Personne n'objecte apparemment. Enfin, ceux qui boivent cette horreur n'objectent pas à boire de la Coca-Cola.
Pas
de
sauterne, mais
ils objectent au fait de boire un vin qui est sucré. Ouais. Pourquoi?
Philippe Forbach, dans votre restaurant, le bistrot du Sommelier, vous en vendez ou pas du sauterne déjà? Est-ce que des gens vous demandent spontanément ou font un peu, désolé du terme, les violer pour leur dire goûtez et c'est super bon?
Donc, on a des gens qui demandent. Et la demande, d'ailleurs, quand les gens demandent, c'est plutôt l'apéritif.
À l'apéritif, d'accord.
Oui, ils disent, vous avez un peu de sauterne.
Et c'est bien techniquement, ça, c'est pas terrible.
C'est respectable de goûter un apéritif, un verre de sauterne. Après, nous, on est plutôt en suggestion, alors soit sur des plats pour les gens qui veulent faire une expérience. Mm-hmm. C'est vrai que le poulet rôti, dont parlait Ophélie un instant, des riz de veau, même certains, oui, exactement, ou du crustacé.
Oui.
Un crustacé aux agrumes avec un verre de sauterne, c'est magnifique. Des fromages, n'en parlons pas, il n'y a pas que du bleu et du roquefort, il y a plein de fromages qui vont avec, et puis sur les desserts, ça fonctionne quand même effectivement très bien.
Ça peut être un dessert, un verre tout seul aussi.
Exactement.
Un petit peu âgé.
On a quelques fruits secs.
Servez-nous un verre de sauterne, et on sert effectivement des abricots secs, des orangettes, enfin des choses, etc. Ce qui est intéressant aussi à expliquer aux gens, c'est que ça se conserve, et que le sauterne se transforme. On peut l'aimer jeune, on peut l'aimer vieux, il n'y a pas de jugement de valeur.
Donc c'est définitif que la bouteille ouverte, on peut la garder combien de temps?
Alors la bouteille ouverte, il faut la consommer quand même assez rapidement. D'accord. Contrairement au vin de paille dont on a parlé.
Voilà. On a quelques jours.
Bien,
quelques
voilà, au frais.
Une semaine dans la porte du frigo.
Sans problème. Voilà. Après, c'est un peu plus compliqué. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se transforme. Et notamment la sucrosité qui peut perturber au départ. On dit que les vieux sauternes mangent leur sucre. Mmh. Si on aime, effectivement, ou si on n'aime pas cette sucrosité un petit peu envoûtante du départ, goûtez un vieux sauterne, vous allez être étonné. Vous allez dire, effectivement, il y a du sucre, mais il passe en deuxième plan. Et là, pour le coup, les accords s'ouvrent sur des viandes rôties, sur du gibier. Mais enfin, il y a vraiment des possibilités assez extraordinaires.
Surtout
ce qui est viande confite et tout.
Il y a un autre plage à explorer sur les accords, c'est les plats épicés. Puisque l'épice, on dit qu'il faut étouffer le feu et pas le noyer. Donc, si on veut le noyer, on boit de la bière avec les plats épicés. Mais si on veut l'étouffer en douceur, c'est un vin comme un toast sauterne qui convient très, très bien.
Ophélie?
Oui, moi, j'ai testé ça plusieurs fois dans des restaurants asiatiques où on mangeait très pimenté et on prend un liqueur, un sauterne avec.
C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer donc l'image, l'envie, l'appétence? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Nous avons
une égérie chinoise qui va dire j'adore ça avec la nourriture.
Alors la Chine, ça a été essayé, hein, bien sûr. On a beaucoup sillonné la Chine, tous les
et ça marche pas.
C'est compliqué. Les Chinois aiment la liqueur, mais ils aiment pas les vins trop liquoreux. Il leur faut en fait un sauterne léger. Voilà. Ouais. C'est plutôt ça qui leur convient quand c'est trop.
Et on peut gérer le degré de sucrosité
bien sûr,
un peu comme en champagne sur un degré.
Alors là, il y a une évolution à sauterne aujourd'hui. Il y a un certain nombre de crus dont nous faisons partie, qui avons créé un petit peu des sauternes.
Là,
Plus light. Alors on va sortir de la tradition, là aussi, en revenant à la tradition.
C'est bien.
Donc
nous,
on l'a appelé le sauce sauterne, mais il en existe d'autres. Et
on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux.
Alors, on en a beaucoup parlé sur les réseaux
ça
sociaux.
Ça a fait des polémiques abominables.
Bon, ben merci à tous. Fin de ce numéro 625 d'Igilo BFM. Pour savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé. Nous sommes chez Nicolas à Paris, 31 Place de la Madeleine, dimanche à 15h. D'ici là, bonne fin de journée à l'écoute de BFM Business. Et surtout, n'oublie jamais, respectez la plus grande des modérations.